Comme tous les vendredis, des scientifiques d'horizons divers se retrouvent dans le club des Têtes au Carré pour évoquer quelques faits marquants de l'actualité scientifique. Au menu des discussions aujourd'hui, le point sur une épidémie silencieuse, la maladie de Lyme transmise par les tiques, des nouvelles fraîches de la sonde New Horizon qui nous montre Pluton comme nous ne l'avions jamais vu, un focus sur l'animal le plus rapide de la planète, le faucon pèlerin, et puis à la une de l'actualité scientifique aujourd'hui, avec Axel Villard, une équipe écossaise qui s'est intéressée à l'impact écologique et économique de la pêche en eau profonde avec des chaluts. Bonjour Axel Villard.
Et bonjour Daniel. Et les conclusions de cette étude sont plutôt claires. Plus on cherche profond, moins la pêche est rentable et plus la biodiversité est impactée. On en discute dans un instant avec nos invités et vos questions sur Twitter, bien sûr, hashtag l'attaque.
Oui, et puis pour adresser vos questions à l'ensemble de nos invités ou réagir sur l'un des sujets, rendez-vous également sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Cette émission est réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Margot Dullard.
La Tête au Carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Autour de la table aujourd'hui, Fabienne David de la Ligue protectrice des oiseaux, Julien Perrault, rédacteur en chef de La Salamandre, et l'astrophysicien François Forget. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Également avec nous au téléphone, Sandrine Banas. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à la faculté de pharmacie de Nancy, spécialisée en parasitologie. Et ce soir, vous participerez dans le cadre du festival Films de chercheurs à Nancy à une projection débat sur la maladie de Lyme, une maladie transmise par les tiques dont on parle peu, mais qui peut être vraiment invalidante. Quels sont les symptômes, Sandrine Banas?
Les symptômes sont très polymorphes. On peut parler de problèmes articulaires en général, problèmes cardiaques et surtout problèmes neurologiques.
Et alors, combien de personnes sont concernées par cette maladie en France?
Alors, on estime environ à peu près les chiffres d'une 27 000 personnes par an en France qui sont contaminées, nouvellement contaminées.
Oui. Alors qu'on a tendance à penser à cette maladie comme à une maladie rare, et on se rend compte qu'elle ne l'est pas tant que ça.
Oui, c'est le problème. Actuellement, elle a un statut de maladie rare, mais effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont contaminées.
Nous ferons le point avec vous dans cette émission sur la maladie de Lyme et sa prise en charge, parfois insuffisante. François Forget, planétologue, astrophysicien au CNRS et à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes en train de vivre un petit peu un moment particulièrement réjouissant de votre carrière, puisque vous participez au projet de la sonde New Horizon depuis le début. Vous étiez dans l'aventure depuis le début. La sonde est partie en 2006 et depuis plusieurs semaines, elle nous régale avec des clichés de la planète Pluton assez extraordinaires. Je devrais dire la planète naine d'ailleurs, c'est plus vraiment une planète Pluton. C'est un monde inconnu que l'on est en train de découvrir, François Forget.
Oui, tout à fait. En quelques semaines, on est passé d'un point dans le ciel à un monde, voire à plusieurs mondes, si on compte les lunes, les petits satellites qui sont autour, et un monde extrêmement actif, et encore plus actif que ce qu'on pouvait imaginer. On imagine déjà beaucoup, donc là c'est un régal effectivement.
Ouais, vous allez nous dire en détail ce que la sonde New Horizon vous a appris sur Pluton, et nous dire les prochaines étapes de l'exploration de cette sonde. Également avec nous, Fabienne David, responsable de programme à la Ligue pour la protection des oiseaux, et Julien Perrault, rédacteur en chef du journal La Salamandre, qui consacre donc son dernier numéro au faucon pèlerin, avec ce titre, un chasseur en pleine ville. Alors on s'attend toujours avec La Salamandre à des grands espaces, la nature, et là vous l'avez placé dans la ville, cet oiseau, ce rapace.
Bien sûr, parce que la nature, ça commence aussi en pleine ville. Et c'est vrai que le faucon pèlerin, qui est un des oiseaux les plus extraordinaires qui existent sur Terre, c'est l'animal le plus rapide au monde. C'est l'un des vertébrés qui a la plus grande répartition sur la planète Terre. Eh bien, cet oiseau, parfois, il chasse aussi et il vit aussi. Et il élève aussi ses petits en pleine ville et même au cœur de Paris.
Fabienne David, le faucon pèlerin, c'est une occasion de se réjouir pour la LPO, parce qu'il était vraiment en voie de disparition. Il se portait très mal et depuis 40 ans, c'est son grand retour.
Tout à fait, c'est un bel exemple en fait d'un combat mené par les passionnés de la nature pour protéger cette espèce qui était au bord de l'extinction au siècle dernier et qui aujourd'hui recouvre son territoire, revient et s'installe même en ville.
On verra pourquoi avec vous dans cette émission. Le faucon pèlerin, animal fascinant, le plus rapide du règne animal. Vous allez nous emmener à sa découverte dans la dernière partie de cette Tête au Carré. Pour adresser vos questions à nos invités ou réagir à l'un de ces sujets, franceinter.fr, rubrique La Tête au Carré, ou Twitter avec le mot-clé l'attaque. À la une aujourd'hui, quand la science s'intéresse au chalutage en eau profonde.
Si l'homme s'est longtemps contenté de pêcher le poisson dans les eaux de surface, l'épuisement des ressources a conduit l'industrie à se tourner vers des profondeurs pouvant atteindre 2000 mètres. Les navires-usines employées mesurent jusqu'à 240 mètres de long, contre 20 à 30 mètres pour un chalutier traditionnel, et peuvent embarquer jusqu'à 14 000 tonnes de poissons. Les écologistes comparent donc la capture en eau profonde à une exploitation minière plutôt qu'à une activité de pêche. Là où leur filet passe, tout trépasse.
Deux études parues la semaine dernière et puis en juin dernier apportent aujourd'hui des éléments scientifiques solides contre les chalutages profonds. Des résultats intéressants dévoilés au moment où les négociations européennes sur les quotas de pêche vont commencer. Et puis à 3 mois aussi de la conférence pour le climat qui s'ouvrira à Paris en novembre prochain. Pour parler pêche et climat, nous recevons aujourd'hui Claire Nouvian, directrice de l'association Bloom pour la préservation marine. Et par téléphone depuis Montpellier, Philippe Curie, chercheur et représentant européen pour l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Philippe Curie, la première publication est écossaise et ses conclusions sont plutôt claires. Au-delà de 600 mètres de profondeur, la pêche au chalut devrait être tout simplement interdite.
Mais oui, ce papier est d'un intérêt fondamental. Il nous apporte enfin, des résultats et puis des informations qui sont tout à fait précieux et important et surprenant sur le monde profond. Parce que vous savez, on a cet a priori que quand on va descendre dans les profondeurs des océans, la vie va se raréfier. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une chose très simple, et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, mais bon, voilà. Ils ont étudié des campagnes de chalutage, des statistiques de pêche, entre 250 et puis dans le monde très profond, 1500 mètres. Et puis les résultats, ils sont éclairants. Ils sont éclairants et ils sont surprenants. C'est que la biodiversité en poisson, elle s'accroît entre 400 et 1000 mètres. Et elle s'accroît significativement puisque quand vous descendez de 100 mètres, vous trouvez 18 espèces additionnelles tous les 100 mètres que vous allez en profondeur. Donc ça, c'est je dirais une première quantification de cette richesse des milieux profonds. Et en plus, cette étude, c'est complétée par une étude économique tout à fait intéressante pour montrer que dès qu'on descendait en dessous de 600 mètres, on détruisait beaucoup de raies et de requins qui sont pas commercialisés et que le profit commercial qu'on pouvait tirer de ces zones de chalutage en dessous de 600 mètres, elle décroissait rapidement. Donc c'est, je dirais, ce papier, cet article qui est publié dans une grande revue, il nous dit clairement qu'il faut préserver cette diversité à partir de 600 mètres. Et vous savez, il y avait des discussions sans fin, mais aussi sans fondement sur ces limites du milieu profond.
Alors justement, des discussions sans fin. Claire Nouvian, est-ce que vous avez l'impression qu'une telle étude est de nature à clore les débat, ça y est, on va passer à autre chose, maintenant les choses sont dites, ou ça n'est qu'une étude parmi tant d'autres?
Alors le problème qu'on a, c'est d'abord on a un problème parce que c'est la France qui mène le blocage au niveau européen depuis 3 ans au minimum. La Commission européenne a proposé une réforme assez radicale du règlement qui encadre la pêche en eau profonde, et en 2012 on a un règlement, une proposition qui était vraiment volontaire et qui proposait justement d'interdire le chalutage profond au-delà en tout cas d'une certaine profondeur à déterminer. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les discussions sont noyées au niveau du Conseil des ministres européens par la France. Le vote du Parlement européen, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en décembre 2013, ce vote a été raté. C'est-à-dire que le Parlement s'est prononcé en faveur du maintien de la pêche en eau profonde et du chalutage profond à cause de la délégation française menée par les socialistes. Donc vous voyez, la France a vraiment mené un jeu absolument terrible. Donc les pays qui ont, pour des raisons uniquement politiques, envie de bloquer le sujet, ne vont pas écouter la science. Ça ne va pas être nouveau. Par contre, les pays qui sont évidemment proactifs, progressistes, comme le bloc nordique, l'Allemagne, les Scandinaves et le Royaume-Uni, eux, évidemment, vont s'emparer de cette étude.
Axel Villard.
Oui, Philippe Curie, vous parliez de cette étude et de l'aspect économique de l'étude. Quelles ont été les conclusions économiques de ce travail des chercheurs écossais?
Les conclusions économiques, ils ont pris les captures qui sont faites à partir de ces 600 mètres. Ils ont pondéré chaque capture et puis ils ont vu le ratio entre ce qui était rejeté à la mer versus ce qui était conservé et commercialisé. Et on s'aperçoit que à partir de 600 mètres, on capture surtout ces espèces qui sont rejetées et qui sont importantes pour la biodiversité, donc les raies, les requins, et que donc cette valeur commerciale, elle s'effondre. Alors,
Oui, autrement dit, ça détruit la biodiversité et en plus, financièrement, c'est une erreur. Économiquement, c'est pas très porteur.
Voilà, exactement. Et c'est donc un non-sens, je dirais, à la fois économique et de préservation de la biodiversité. Mmh. On est quand même dans le cadre de la directive cadre européenne qui nous impose, à juste titre, de protéger la biodiversité dans le milieu marin. Mmh. Donc voilà. Donc il y avait, je le disais, ces discussions sur le monde profond, ces 600 mètres. Voilà, on a des arguments à la fois économiques et à la fois de protection de la biodiversité qui devrait faire évoluer, nous l'espérons, les discussions.
Je voulais aussi revenir sur une autre étude passée presque inaperçue cet été. Elle pourrait avoir de l'importance également dans cette année du climat. Claire Nouvian, ce sont des chercheurs anglais, hein, cette fois, qui se sont rendus compte que les poissons des eaux profondes participaient activement à la fixation du CO2 dans les océans. Donc, autrement dit, c'est une des solutions possibles pour essayer d'amoindrir ces accumulations de CO2 dans l'atmosphère.
Oui, alors ça aussi, c'est vous savez, on a toujours un problème avec toute cette question de la séquestration du CO2, parce que faire des calculs, voilà, et pouvoir mettre une valeur économique sur tous ces services écosystémiques qui sont rendus par la nature, c'est toujours compliqué. Ça a été fait, et donc des chercheurs anglais de Southampton, Clive Truman et son équipe, ont montré que les poissons profonds, qui sont justement ceux qui sont ciblés par les navires français, notamment ceux d'Intermarché, au large de l'Écosse, de l'Irlande, sont des poissons qui ne migrent pas forcément verticalement, c'est-à-dire mais ils se nourrissent d'animaux qui migrent verticalement. Alors c'est quoi la migration verticale ? C'est que tous les soirs, toutes les nuits dans les océans, les animaux changent d'étage. Parce que quand on vit à une certaine profondeur, on a de toute façon un intérêt à aller vers la surface où il y a de la production de nourriture grâce à l'énergie solaire. Et du coup, ces animaux qui migrent, qui font du up and down, quoi, qui font en haut, en bas, ils font l'ascenseur, et les poissons profonds, eux, les capturent. Et donc, ils séquestrent du carbone. Et donc, c'est un million de tonnes de carbone qui sont séquestrées comme ça par les poissons profonds, gratuitement, s'ils nous rendent un service. Qu'il nous faudrait évidemment des dizaines de millions d'euros pour substituer en créant des usines de captation de carbone.
On arrive déjà à la fin de cette petite discussion. Peut-être une conclusion tout de même. Est-ce que ces deux études vont dans le bon sens ? Est-ce que vous vous sentez porté par ces études pour mener votre combat, Claire Nouvian ?
Porté, oui, bien sûr. Et puis surtout porté, parce que heureusement, je n'œuvre pas qu'au niveau français, parce que c'est la déprime absolue quand même de travailler sur cette question en France. Enfin, ça donne juste envie de pleurer sur le niveau de connivence entre les lobbies bretons industriels de la pêche, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'avenir, et le gouvernement français qui, pour des raisons seulement électorales, parce que la présidence de la région Bretagne doit revenir aux socialistes dans leur carte électorale, et on sait que Jean-Yves Le Drian ne s'est pas caché qu'il allait se présenter au régional. Donc on voit bien que le lobby breton est à l'œuvre au niveau du gouvernement français. Je pense que Ségolène Royal est intimement convaincue que tout ça n'a absolument aucun sens. On a oublié de dire que la pêche était subventionnée. Donc non seulement elle détruit des richesses naturelles, mais en plus c'est nous qui payons pour tout ça. Donc merci. Donc évidemment qu'elle en est convaincue, mais je pense qu'il y a un petit peu de pression au niveau du seul point de vue électoral, ce qui quand même... Quand on est à une ère comme ça de majeure de décisions à prendre pour une transition écologique avec la COP21 qui va se tenir à Paris, on a une mesure concrète qui ne coûte rien à personne et qui ramène de l'argent aux caisses de l'État pour en pavant l'avenir, on va dire, de bonnes intentions. Mais on se rend compte que voilà, un petit lobby breton et hop, l'affaire part complètement aux oubliettes.
Merci Claire Nouvian et Philippe Curie de nous avoir éclairés sur ces nouvelles recherches. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, c'est la fin d'Ebola au Libéria. L'un des États les plus touchés par l'épidémie est enfin débarrassé du virus. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier la fin de la transmission d'Ebola dans le pays après une période de 42 jours sans nouveaux cas. On rappelle qu'au Libéria, l'épidémie a fait près de 4800 morts sur environ 10600 cas. Mais il ne faut pas baisser la garde. Le Libéria, à présent, entre dans une période de haute vigilance de 90 jours. C'est ce qu'a ajouté l'OMS. La poussière des fermes limiterait l'asthme et les allergies, selon une étude menée par des chercheurs européens. Les enfants qui grandissent à la ferme seraient moins sujets à ces problèmes grâce à une protéine baptisée A20. La poussière rendrait la muqueuse des voies respiratoires moins réactive aux allergènes. Après avoir exposé des souris à de la poussière prélevée dans des fermes allemandes et suisses, les chercheurs révèlent qu'elles deviennent rapidement protégées contre l'allergie aux acariens, allergie la plus courante chez l'homme. Néandertal avait l'eau chaude à la maison. Des fouilles archéologiques de l'Abri Romani en Catalogne nous livrent les petits secrets du confort de notre cousin préhistorique éteint il y a environ 40 000 ans. L'homme de Néandertal creusait un récipient à même le sol et l'entourait le foyer et les pierres. Il jetait ses pierres brûlantes dans l'eau pour la chauffer, puis la garder à température. On ne sait pas, en revanche, si la cuvette était utilisée pour faire la cuisine ou pour la toilette. Dans un instant, on s'intéresse à la maladie de Lyme transmise par les tiques, puis nous prendrons des nouvelles de la sonde New Horizon qui explore Pluton et une rencontre à tire-d'aile avec le faucon pèlerin. Les invités de ce club des Têtes au Carré attendent vos questions à la page de l'émission sur franceinter.fr. C'était Kélis qui chantait Trick Me dans le club des Têtes au Carré.
Qu'on soit en rando ou même en vélo, où on passe plus vite, ils arrivent quand même à s'accrocher. Alors, je ne sais pas si c'est pendant les pauses ou pendant la pratique. Mais ça arrive qu'il y ait comme des nids de tiques. Ça nous est arrivé une fois en randonnée que quelqu'un s'assoit dans l'herbe pendant le casse-croûte et il s'est relevé, il a peut-être 200 ou 300 tiques sur lui.
200 ou 300 tiques, rien que ça. C'était un extrait du documentaire Maladie de Lyme, quand les tiques attaquent. Documentaire qui sera projeté ce soir à Nancy dans le cadre du festival des films de chercheurs. Sandrine Banas, vous êtes maître de conférence à la faculté de pharmacie de Nancy en parasitologie, chercheuse au laboratoire de chimie physique et microbiologie de l'environnement. Et ce soir, vous participerez à la projection débat organisée par le festival du film de chercheurs. Le titre exact du film, donc, c'est Quand les tiques attaque maladie de Lyme, une épidémie silencieuse. Alors l'occasion évidemment pour vous et puis pour le festival de faire le point sur cette maladie. Comment se transmet exactement la maladie de Lyme ?
Alors un petit point de précision, la conférence n'aura pas lieu ce soir à Nancy mais à Étain, qui est dans la Meuse.
Très bien, vous faites bien de le préciser. Comment se transmet donc cette maladie ?
Alors la maladie se transmet uniquement par des tiques, hein, par morsure d'une tique contaminée.
uniquement.
C'est-à-dire que si un animal qui est piqué par une tique contracte la maladie, il n'est pas contagieux pour l'homme ?
Non, l'animal n'est pas contagieux. Cependant, la tique qui était sur lui est peut-être dans les locaux, dans la maison, et peut ensuite contaminer l'homme.
Ouais, et de la même manière, une personne atteinte, contaminée, n'est pas contagieuse directement.
Voilà, c'est ça.
Alors, comment peut évoluer une morsure de tique infectée par la maladie ? D'ailleurs, je vous propose d'écouter un autre extrait du documentaire dans lequel que vous projeterez ce soir, et dans lequel un médecin décrit l'évolution rapide et assez inquiétante d'une morsure de tique chez une patiente.
Là, le cas de Johanna est assez typique parce que voilà une femme qui était en pleine forme et après une promenade dans les bois, sa vie bascule complètement. Et c'est vrai qu'au début, c'est difficile parce qu'une petite piqûre comme ça de tique, ça ne paraît pas méchant. Et puis on voit que très vite sont apparus des signes comme une grande fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires, une faiblesse pour marcher. Et elle a vu au bout de 2 mois environ un des assistants du service parce qu'elle n'en pouvait plus, elle ne comprenait pas ce qui se passait.
On se rend compte que ça peut aller très vite et que ça peut prendre des proportions. Quels sont les premiers symptômes qui doivent alerter ?
Alors, le premier symptôme qui alerte, c'est cette tache rouge qu'on voit apparaître, qui fait plus de 2 cm, qu'on appelle l'érythème migrant ou une cocarde. Et c'est elle qui montre que la tique était contaminée. Cependant, certaines personnes ne remarquent pas cette tache ou ne l'ont pas. Donc ouais. C'est pas systématique.
Et tous les tiques ne sont pas forcément porteurs, toutes les espèces de tiques ne sont pas forcément porteurs de cette bactérie. Hein.
Alors il y a de nombreux tiques dans nos régions, mais le plus présent c'est Ixodes ricinus, c'est celui qui transmet la maladie de Lyme à partir de la moitié nord, surtout de la France. Et c'est celle-ci qui est contaminée. On estime à l'heure actuelle qu'il y a entre 10 et 20% des tiques contaminées selon les régions.
Ouais. Et alors l'évolution, on l'a vu, peut être rapide et ça peut aller jusqu'où ? C'est vrai qu'il y a un peu toute une palette de conséquences et de symptômes, mais les plus graves font assez froid dans le dos quand même.
Alors, c'est souvent des douleurs articulaires qui sont dans la deuxième phase après cet érythème migrant, quelques semaines après. Et après, ça peut durer très longtemps avec des problèmes, entre autres, neurologiques associés encore aux problèmes articulaires et des fois même des problèmes cutanés qui ressurgissent.
Oui. C'est-à-dire que certaines personnes même se sont retrouvées dans des fauteuils roulants parce qu'ils avaient été piqués puis que la maladie n'avait pas été soignée dans les premiers temps.
Alors, il y en a qui en meurent. Hein. Il y a des décès liés à la maladie de Lyme. Beaucoup sont des pathologies invalidantes où les personnes ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus soulever de charges, ont du mal à s'exprimer, à réfléchir et du coup à effectuer leurs tâches journalières.
Oui. Cécité aussi, si l'œil est atteint par la bactérie, ça peut entraîner aussi la cécité, je crois.
Oui, c'est ça. Certaines personnes deviennent aveugles ou perdent la faculté au niveau d'un œil lié à la pathologie.
Et un symptôme aussi régulier, c'est la dépression. Les personnes atteintes sont souvent en proie à ce type de pathologie.
Oui, dans nos régions, on voit deux grands symptômes. Hein, ça varie selon les régions, selon les pays. On a des problèmes articulaires et des problèmes neurologiques. Et dans les problèmes neurologiques, on note des douleurs irradiantes dans les membres, hein, liées à des problèmes neurologiques, enfin des problèmes au niveau des nerfs. Et puis d'autres symptômes qui sont vraiment cette fois au niveau du cerveau, au niveau neurologique, avec des dépressions, des personnes qui ont des hallucinations, des troubles cognitifs, enfin des troubles qui peuvent être très variés, qui sont liés à la présence de cette bactérie.
La maladie est-elle suffisamment bien dépistée et connue des personnels de santé ? Autrement dit, est-ce que des personnes qui ont ces symptômes-là sont suffisamment rapidement diagnostiquées lorsqu'ils vont voir leur médecin ?
Alors c'est le gros problème à l'heure actuelle, les médecins sont pour l'instant peu formés. Ceux qui sont bien formés, c'est parce qu'ils connaissent des personnes qui sont contaminées dans leur famille ou dans leurs proches. Mais à l'heure actuelle, le diagnostic pêche, effectivement, on a du mal à les détecter. On n'arrive pas à savoir ceux qui sont porteurs non malades de ceux qui sont porteurs et malades. Les outils actuels ne sont pas assez fiables, assez sensibles et spécifiques pour pouvoir dire une personne est malade de la maladie de Lyme.
Mmh. Comment ça ? C'est-à-dire qu'on peut avoir la bactérie et ne pas développer les symptômes, ne pas être vraiment malade ?
Voilà, il y en a beaucoup en fait. La majorité des cas vont être des personnes qui ont été contaminées mais qui ne vont déclencher aucun symptôme.
Mmh. Avec le risque que la maladie se déclare un jour ?
Alors ça justement, on n'a pas assez de recul, il n'y a pas eu assez d'études. On estime à l'heure actuelle que quand une personne a un érythème migrant, dans plus de 80% des cas, elle ne va pas passer dans une autre phase. Ça va être bloqué à cette phase. Et par contre, on ne sait pas pour ces personnes qui ne sont du coup plus malades, si elles sont guéries ou si la bactérie est en phase dormance.
Est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres, des tranches d'âge plus facilement atteintes ?
Alors, les dernières données montrent que ce sont les personnes âgées les plus contaminées, enfin, à partir de 50 ans, hein, bon, liées à beaucoup de personnes qui vont dans le bois, des cueilleurs de champignons, des chasseurs, le personnel forestier également, et puis une nouvelle tranche d'âge qui est apparue, qui sont les enfants de moins de 10 ans. Mmh.
Quelles sont les régions de France les plus concernées par ces tiques porteurs de maladies?
Alors en Lorraine, on en a beaucoup. Ouais. Hein, les Vosges sont fortement contaminés, la Bourgogne également, le centre de la France et depuis peu la Bretagne également.
Ouais. Il y a des périodes de l'année où il faut faire plus attention que d'autres?
Alors on dit que ce sont les périodes qui sont humides, surtout le printemps et l'automne, là où les tiques en général vont chercher à faire leur repas. Mm-hmm. Mais à l'heure actuelle, on en a très bien même en hiver et en été.
D'accord, donc en gros, il faut faire attention
tout au long de l'année.
À peu près tout le temps. Il y a des traitements quand on est atteint, touché par cette maladie. Est-ce qu'il existe des traitements efficaces?
Alors, les traitements, quand on voit un érythème migrant, cette tache rouge, il faut tout de suite aller chez son médecin et chercher un antibiotique. Alors, c'est un traitement qui n'est pas anodin, qui s'étale au moins sur 3 semaines. En Allemagne, il étale même sur 3 mois pour être sûr d'anéantir cette bactérie. Mmh. Et même avec ce traitement, on n'est pas sûr de correctement bloquer le passage de la bactérie. Ouais. Donc, les traitements ne sont pas suffisants à l'heure actuelle, ouais, pour être sûr d'éradiquer la dissémination de la bactérie.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin ne peut prescrire que 3 semaines d'antibiotiques face à ce type de pathologie, alors qu'il faudrait pouvoir prescrire plus.
Oui, et beaucoup de personnes font des récidives, et on n'a pas les traitements dans ces cas de récidives, parce qu'au bout d'un certain nombre de traitements, vous n'êtes plus considéré comme malade, comme vous êtes considéré comme soigné et guéri. Mmh. Et donc les médecins sont confrontés à un problème de traitement.
Oui. On comprend vraiment le titre de ce documentaire qui sera diffusé ce soir à Étain, vous l'avez dit. Une épidémie silencieuse. On se dit les traitements ne sont pas adaptés, le personnel de santé n'est pas forcément formé, et puis qui plus est, le grand public n'est pas forcément au courant de comment réagir. Comment expliquer? Parce que vous nous avez dit, ça concerne quand même pas un petit nombre de personnes. Vous nous avez donné le nombre de cas, je ne l'ai plus en tête, mais c'était en dizaines de milliers par an.
Oui. Environ 30 000 personnes par an contaminées.
30 000 par an, comment expliquer qu'on ne fasse pas plus de prévention autour de cette maladie?
C'est une maladie qui est récente, elle a évolué récemment et la prévention n'a pas suivi. Voilà, autant dans les forêts, on sait qu'on ne doit pas allumer de feu ou ne pas pouvoir camper, mais ce n'est pas écrit faire attention aux tiques. Mmh. Et donc beaucoup de plaquettes ont été distribuées par différents centres, hein, comme l'INRA ou différentes associations. J'interviens dans de nombreuses réunions justement pour prévenir, dans des écoles également, pour montrer comment il faut faire pour se prévenir et comment enlever une tique par exemple.
Alors comment enlever une tique?
Alors on utilise un tire-tique, hein, c'est plus simple, qui est vendu
en général. Ça ressemble à quoi,
c'est
un tire-tique?
C'est une sorte de petite pince épilée qui est courbée au bout, ouais, hein, qu'on trouve au rayon vétérinaire en général, ou dans les animaleries ou en officine, et on prend la tique, on fait une rotation, et ainsi on arrive à la décrocher. Voilà, sans utiliser de produits, c'est le principe le moins cher et le plus rapide.
Donc pas d'éther que de toute façon a priori on ne peut plus acheter, ni alcool pour enlever cette tique.
Ouais. Alors aucun produit acaricide autre que la pince finalement, et surtout pas des produits qui sont à action très lente, un peu huileuse, et qui stresseraient la tique, et lorsqu'elle est stressée, elle va recracher toutes les bactéries qu'elle a en elle.
Oula, donc ne pas stresser, pas stresser la tique.
Il faut y aller très rapidement.
Une question de Frédéric qui nous arrive par Internet. Est-ce qu'une première infection par une tique traitée par antibiotique immunise contre les suivantes? Vous voyez, l'effet vaccin en quelque sorte.
Non, pas du tout. Il n'y en a pas du tout. On sait à l'heure actuelle qu'il y a de nombreuses souches de bactéries. Donc déjà, on peut tomber sur une autre bactérie. On peut être contaminé par d'autres souches. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas parce qu'on était mordu et qu'on est arrêté migrant qu'on n'aura plus. D'ailleurs, les forestiers vous le disent, hein, ils en ont un ou deux par an. Et à chaque fois, ça recommence.
Merci Sandrine Banas. Je rappelle que l'on peut vous rencontrer ce soir à Étain au Centre culturel et touristique à 20h. Donc d'abord projection du film documentaire Quand l'éthique attaque, suivi d'une discussion avec vous autour de ces questions. Cette projection est organisée dans le cadre du festival du film de chercheurs de Nancy. L'entrée est gratuite. Et puis on va mettre en lien sur la page de l'émission l'ensemble du programme de ce festival qui est assez formidable pour l'avoir déjà pratiqué. Merci à vous. Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.
Dans un instant, nous prendrons des nouvelles de la sonde New Horizon, partie explorer Pluton. Nous ferons le point sur ses dernières découvertes. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Les insatisfaits, nous sommes les jamais assez. Nous sommes les tout tout de suite, nous sommes les lassés bien trop vite. Nous nous sommes les vacances ratées, nous sommes les amours avortés, nous sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés, mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses, nous sommes la vodka et le gin, nous sommes les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, les enfants sans façon, nous sommes des cons, mort-nés.
C'était Les Insatisfaits, chanté par Holiday dans le club des Têtes au Carré.
La Tête au Carré, le club sur France Inter.
Et nous poursuivons notre club des Têtes au Carré avec une halte sur Pluton. Nous sommes en compagnie de François Forget, directeur de recherche au CNRS, planétologue et astrophysicien à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous travaillez sur la sonde New Horizon depuis son lancement en janvier 2006. Alors lorsque la sonde est partie en janvier 2006, elle se dirigeait vers Pluton qui avait le statut de planète. 6 mois après son départ, en août 2006, coup dur pour Pluton, la 9e planète du système solaire est déclassée.
Ne m'appelez plus planète, c'est ce que pourrait dire Pluton. En effet, cet après-midi, les 2500 scientifiques présents à l'Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale ont enlevé à Pluton son statut de planète. Pluton, la seule découverte américaine du système solaire, quitte donc la catégorie des belles et majestueuses planètes pour rejoindre, en 3e division, une nouvelle sous-catégorie, celle des planètes naines. À partir de ce soir, dans tous les manuels du monde, la microscopique Pluton va donc disparaître.
François Forget, comment avez-vous pris cette nouvelle, vous qui travaillez sur Pluton, vous envoyez avec d'autres chercheurs votre sonde vers cette planète, 6 mois plus tard, on vous dit, ça n'est plus une planète, ça n'est qu'une planète naine que vous allez explorer. Ça vous a fait quelque chose ?
Non, ça ne m'a pas vraiment bouleversé, pour être sincère. Je prends souvent cette image, c'est un peu comme si on avait décidé autrefois que l'Australie était un continent et tout d'un coup on dit, oh bah non, c'est une île, ce qu'elle est actuellement. Ça ne change rien à la géologie fascinante, les kangourous extraordinaires.
Mmh. Et on parle de l'Australie, pas de Pluton, quand vous parlez de kangourous, on est d'accord.
Il y a peu de kangourous sur Pluton. Oui. Mais non, mais pour Pluton, en fait, bon, il y avait quand même un problème à l'époque, puisqu'on avait découvert d'autres Plutons derrière, un peu plus loin, pas beaucoup plus loin. On a notamment une planète qui s'appelle Eris, qui est juste un tout petit peu plus petit que Pluton, et probablement il y en a encore beaucoup d'autres. Et donc, on savait plus s'il y avait 9 planètes, 15 planètes, 30, 100 planètes. Oui. Et donc, à un moment donné, il a fallu faire des choix. Bon, le choix a été fait de traiter un peu Pluton comme Cérès, à l'époque où on a découvert Cérès, juste après on a découvert d'autres astéroïdes, et on a dit c'est la ceinture d'astéroïdes Cérès. D'ailleurs Cérès maintenant est une planète naine. Alors bon, donc moi ça m'a pas bouleversé. On peut comprendre aussi les arguments, parce que Pluton, on l'explore, c'est non seulement une planète extraordinaire, très active, c'est un système avec une lune qui est quand même importante, des satellites, c'est des mondes quoi, tout ça. Mm-hmm. Donc des mondes, on va dire c'est une planète. Ouais. Mais bon, planète naine, moi ça ne me bouleverse pas. Mais ça embête vraiment en particulier le responsable très carré de la mission New Horizons, s'appelle Alan Stern. Alors lui, il est vent debout contre cette idée. Il va combattre ouais. toute sa vie pour réhabiliter ouais. Pluton.
Le problème, c'est que si on réhabilite Pluton, on réhabilite tous les astres qui ont à peu près la même taille, qui circulent au même endroit, et du coup, il va y avoir un paquet de planètes.
Oui, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, moi, j'ai envie d'argumenter que c'est une forme de promotion. Ouais. C'est-à-dire que Pluton, avant, qui était un tout petit caillou isolé, loin, un petit canard, au-delà des planètes géantes extraordinaires, tout seul, et on sait maintenant du compte depuis quelques années seulement hein, que c'est le représentant, l'ambassadeur, puisque maintenant on vient de l'explorer, d'une immense population d'objets, certains grands comme on a dit, et qui sont fascinants. Et donc en allant explorer Pluton, New Horizons, ça fait beaucoup plus que visiter ce petit canard. Il a visité un représentant de cette troisième zone du système solaire qui est extraordinaire et qui est nouvelle et qui nous apprend beaucoup.
Et qu'on connaît finalement encore très peu. On se rend compte, grâce aux photos, grâce aux images qu'on voit à New Horizons, et ça ne fait que commencer, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de données qui sont encore en train de transiter, même si, vous me l'avez dit, elle a déjà passé son chemin, la sonde, elle n'y est plus, mais par contre, toutes les images qu'elle a prises, ça arrive très lentement, un peu au compte-gouttes, vous les découvrez. Et alors, qu'est-ce que, pour le moment, on en saura plus tard, mais qu'est-ce que, pour le moment, à l'heure actuelle, on a découvert qu'on ne savait pas sur cette petite planète naine?
Alors qu'on ne savait pas, on soupçonnait des choses, mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il faut imaginer ce petit monde. Alors Pluton, c'est plus petit que la Lune, c'est ça. Mais en même temps, on découvre une planète avec des chaînes de montagnes qui semblent récentes. Hein. On peut les estimer leur âge, parce qu'on voit qu'il y a très peu de cratères. Par exemple, quand on regarde la Lune, c'est plein de cratères, parce que c'est vieux, la Lune. Ouais. Non, Pluton, c'est tout récent. Des chaînes de montagnes,
en plus. C'est une planète qui a quand même 4,5 milliards d'années comme la nôtre.
Donc, il y a une activité géologique, il y a une source de chaleur interne. C'est un petit peu surprenant, ça avait été envisagé, il y a des scénarios. C'est assez exotique, Pluton, parce que sur Pluton, une grande partie du manteau qui sur Terre, c'est de la roche silicate. Sur Pluton, il y a beaucoup d'eau. Un tiers de la masse de Pluton, c'est de l'eau, de la glace d'eau. Alors, il faut dire que la température de Pluton, en termes de mécanique, l'eau, c'est comme du caillou. Hein. C'est extrêmement solide, ça fait des montagnes et ça ne bouge pas.
Ouais. Mais c'est des montagnes de glace, en fait.
De glace d'eau. Ouais. Donc, encore une fois, c'est du caillou. Par contre, ce qui est vraiment d'extraordinaire sur Pluton, c'est qu'on a une abondance de glace, pour le coup, des choses qui sont plutôt gazeuses chez nous, mais qui sont en glace là-bas, c'est-à-dire de l'azote, du méthane, du monoxyde de carbone. Et ça, ça fait des véritables glaciers. Alors, pour moi, le clou, en plus j'ai un goût pour ces affaires-là, pour les régions polaires sur Terre, ce qui est extraordinaire sur Pluton, c'est qu'on a des véritables calottes polaires et des glaciers actifs de glace, probablement essentiellement de glace d'azote, qui coulent et qui sculptent les montagnes, un peu comme la vallée de Chamonix ou Yosemite ou le Groenland, et ça fait des paysages extraordinaires, avec des vraies falaises bien sculptées, des falaises de 3000 mètres de haut, et on voit ça, c'est actif, et au-dessus de ça, on a une atmosphère aussi qui s'est révélée plus, on va dire tout simplement plus belle que prévu, parce qu'elle est chargée en petites particules d'aérosols organiques. Alors, on s'y attendait un peu, même, je dois dire, dans notre équipe, on a travaillé sur ce sujet-là, on a même fait un article juste un peu avant.
Vous aviez prévu l'atmosphère de Pluton ?
C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que sur une planète comme celle-là, donc c'est une atmosphère d'azote avec un petit peu de méthane. Et ce méthane, quand il est exposé au rayonnement ultraviolet, il fait quelque chose, dans une moindre mesure, qui se passe sur Titan. Alors sur Titan, c'est très fort. Ce sont des formations de brume organique. C'est-à-dire que ça fait des molécules compliquées qui s'agrègent. Ça fait des aérosols de suie, de plastique, si vous voulez. Enfin, c'est des polymères comme ça qui flottent dans l'atmosphère. Alors sur Pluton, sur Titan, il y en a tellement qu'on ne voit pas la surface.
Titan, c'est un des satellites de Saturne.
Ouais, qu'on connaît pas mal parce qu'il a été exploré par la sonde Cassini et même la sonde Huygens européenne s'est posée dessus il y a 10 ans. Et donc, si on voit Titan, l'atmosphère est complètement orange, on ne voit même pas la surface à cause de ces aérosols organiques. Et sur Pluton, on en trouve aussi, donc c'est assez beau. On a fait des photos lorsqu'on voit Pluton à contre-jour, on voit cette magnifique atmosphère.
Mais
pour un objet si petit, c'est formidable.
Oui, voilà, comment expliquer qu'un objet si petit avec une gravité faible, en plus faible même que la Lune, ait une atmosphère et que cette atmosphère ne s'évade pas dans l'univers, reste autour de sa planète?
C'est une bonne question et la réponse c'est que l'atmosphère s'évade. Parce qu'effectivement, sur la Lune, il n'y a plus d'atmosphère, la gravité pas suffisante pour une atmosphère. Pluton est encore plus petit, donc elle devrait pas avoir d'atmosphère. En fait, elle a une atmosphère, mais simplement, elle la renouvelle sans arrêt. On a une atmosphère essentiellement donc d'azote, et cet azote, il s'échappe. D'ailleurs, New Horizons s'est équipé d'instruments pour étudier cet échappement. C'est une espèce d'énorme comète, si vous voulez. Il y a tout le temps un panache de gaz qui s'en va, mais comme il y a des réservoirs énormes de glace d'azote à la surface, au fur et à mesure que l'atmosphère s'échappe, cette atmosphère est renouvelée. Et on pense que depuis, dans le passé, Pluton a pu perdre jusqu'à environ 1000 mètres d'épaisseur d'azote, de glace d'azote dans l'espace.
Mais du coup, cette planète est en train de fondre, de disloquer dans l'univers. Elle va disparaître si elle perd comme ça, par petites bribes, son atmosphère.
Mais c'est rien par rapport à sa masse totale, c'est rien du tout. Mais effectivement, son réservoir de glace, d'azote, de méthane, etc., diminue doucement, mais très doucement. Donc voilà, il en reste encore. Et ce qui fait qu'on a encore un monde actif avec des nuages, des brumes, des glaciers.
C'est vraiment tout un monde. D'ailleurs, vous vous êtes amusé, vous et l'équipe, le reste de l'équipe New Horizons, à nommer les différents reliefs Kiev et les différentes régions que vous avez trouvées. Je crois qu'il y en a une que vous avez surnommée, enfin que vous avez appelée avec le nom de Cousteau, notamment, ouais. En hommage aux explorateurs. C'est un plaisir, ça, de découvrir ces nouveaux mondes et de s'autoriser de nommer sa géographie.
Alors la démarche, ça a été quand même de faire sur un site web. Il y avait un appel d'offres depuis plusieurs mois pour que tout le monde, tous les pays puissent proposer des noms. Et au final, il a été décidé de nommer. Alors sur Pluton, c'est plutôt. Il y a quelques noms d'explorateurs comme Cousteau. Il y a Jeanne d'Arc, je crois, c'est une autre française qui avait fait le tour du monde il y a quelques siècles. Et puis quelques noms même de collègues planétologues qui sont décédés il y a quelques temps. Faut être mort pour avoir une montagne à son nom.
Alors voilà, on sera pas sûr.
Il y a quelques régions qui sont nommées de vaisseaux spatiaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a la région Voyager, les montagnes Voyager, qui était une mission à NASA, Viking, mais il y a aussi des sondes russes. Et en particulier, la région qu'on étudie le plus, elle s'appelle Spoutnik. Donc, je trouve ça formidable quand même, moi, qu'on ait nommé Spoutnik, qui avait été, dans les années 50, le symbole de la baffe de l'URSS par rapport aux États-Unis. Donc, c'est chouette. Il y a aussi des noms qui évoquent les enfers. Alors, il n'y a pas que les enfers traditionnels. Ouais. Il y a la région, pour les amateurs de Tolkien, il y a le Balrog. Le Balrog, il y a Morgoth, pour ceux qui ont lu le Silmarion. Et alors, le plus amusant, c'est sur Charon. Là, Charon, aussi une thématique là.
Donc Charon, c'est par rapport à Pluton, c'est quoi?
Alors Charon, c'est la lune de Pluton qui fait à peu près la moitié de la taille. En fait, les deux tournent autour du centre de gravité commun. Pluton et Charon, c'est vraiment un système double. C'est encore plus que la Lune et la Terre, quoi. Alors sur Charon, l'équipe a proposé, basée sur l'appel d'offres, d'aller vraiment dans notre mythologie actuelle. Donc vous avez le cratère Captain Kirk, Spock, Skywalker, il y a tout ça. Ouais, alors ça, ce sont des noms, en fait, faut être honnête, c'est des noms qui sont proposés, mais ils doivent être confirmés par ce qu'on appelle l'UAI, donc les Nations Unies des Astronomes, qui a le droit de confirmer. Alors je pense que beaucoup de noms vont être confirmés, parce que, après tout, autour d'Uranus, les noms sont liés à une mythologie qui correspond en fait au monde de Shakespeare, donc pourquoi pas Tolkien. Par contre, Kirk et Skywalker, On verra.
Ce serait sympa.
Ce qui est fascinant, c'est d'imaginer que dans 500 ans, on sera encore en train de tuer Pluton et nos descendants seront là. Mais c'était qui, Kirk?
Ce sera peut-être la mythologie qu'on aura pris pendant ces 500 ans. Et maintenant, alors, quelle est la prochaine étape pour New Horizon?
Alors, la prochaine étape a été confirmée, décidée il y a quelques jours. C'est donc la sonde va quand même. Bon, alors, la prochaine étape, je vais reprendre les choses. Dans les mois à venir, pour l'instant, nous n'avons reçu que 5% des données qui sont à bord, dans la mémoire à bord. C'est quelques gigas, mais alors le débit est tellement lent entre New Horizons, qui est si loin, et la Terre, puis il n'y a pas beaucoup d'énergie, que ça va prendre presque plus d'un an pour récupérer les 95% qui restent. Et ça commence. Pour l'instant, la sonde, de ce point de vue-là, fait une pause. Et la transmission de données reprendra au mois de. Dans quelques jours, là, le 15 octobre. Ensuite, à partir de fin octobre, on va faire des manœuvres en rallumant les moteurs pour réorienter la sonde vers un autre objet transneptunien. Alors, pas aussi gros que Pluton. Hein, on parle de là d'un corps qui fait 50 km de large à peu près. On l'a détecté, on a eu du mal d'ailleurs. Mmh. Et on va le passer juste à côté. Et ce sera probablement même le 1er janvier 2019. Et là, on passera juste à côté, on fera des images, on découvrira un nouveau monde. Ça va prendre un peu de temps, c'est assez loin. Mais donc ça, c'est la prochaine étape pour cette mission New Horizons.
Faut être patient. Et la prochaine mission qui ira de nouveau sur Pluton, on peut imaginer qu'on s'y pose sur cette planète, maintenant qu'on a vu qu'elle avait tous ses charmes.
On peut l'imaginer, mais quand on fait les calculs, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est-à-dire qu'en réalité, pour poser quelque chose sur Pluton, ou renvoyer quelque chose, il faut vraiment qu'on ait une petite... qu'on fasse de nouvelles découvertes concernant, je pense, les moteurs fusées, parce qu'actuellement, on a des... tout est un peu lent. Alors, il faudra baisser
pourtant,
les prix des grosses fusées.
New Horizons, c'était déjà une sonde rapide.
Alors, New Horizons, le principe, l'idée qui a permis d'envoyer une sonde aussi rapidement sur Pluton, c'est-à-dire en 10 ans, eh bien, ça a été de mettre de prendre une fusée assez importante, une Atlas 5, c'est-à-dire une fusée à peu près comme Ariane 5, capable de mettre 20 tonnes dans l'espace. On n'a pas mis 20 tonnes dans la fusée, on a mis 478 kilos, c'est le poids tout mouillé, c'est-à-dire avec le carburant de New Horizons, et on a accéléré à fond, ce qui fait qu'elle a fait, elle a atteint l'orbite de la Lune en 9 heures au lieu de 3 jours pour Apollo, et puis tout a été très vite derrière, accélération à Jupiter, et ça met 10 ans.
Elle se déplace
Elle se déplace, elle est montée, si vous voulez, par rapport au Soleil, donc elle a déjà beaucoup ralenti, mais même en ayant beaucoup ralenti, elle a rêvé, on l'a survolé Pluton à peu près 14 km par seconde, en gros ça fait 1 milliard, moi, de l'échelle, parce qu'on a bien vu Pluton arriver, puis Pluton repartir. Mmh. Et ben, un jour avant, on était encore à 1 milliard de kilomètres. Donc c'est 1 million de kilomètres.
1 million, oui, parce que ça me paraissait.
1 million de kilomètres, donc 3 fois la distance de la Lune à la Terre, en gros. Donc ça, c'était juste la veille du survol le plus proche. Donc 1 000 000 de kilomètres par jour, c'est quand même, ça va vraiment vite.
Ouais. Ouais, ça va très très vite.
Pour s'arrêter et se poser, il aurait fallu amener une autre fusée Atlas 5 de 100 tonnes, quoi.
Pour freiner.
Ouais, pour freiner.
Ouais. Oui, une vitesse quand même assez vertigineuse, de quoi faire pâlir de jalousie le faucon pèlerin, qui est tout de même l'animal le plus rapide de la planète. Nous allons découvrir cet oiseau fascinant dans un instant. C'est notre dernier thème du jour.
Can't be bothered, all concerned with what you say. It's the same old line I've heard each time you've gone astray. I've been too easy going in the past for my own good. Allowed you to keep mistreating me the way no true love should. Can't be bothered, don't expect my sympathy. My heart's gone cold, you lost that old time hold on me. You've wronged me once too often, now it's time to tell you the score is goodbye, baby. I can't be bothered no more. Yeah.
C'était I Can't Be Bothered de Hugh Coltman, et la programmation musicale de La Tête au Carré est signée Thierry Dupin.
Le guépard et ses 113 km/h sont relégués loin derrière les prodigieux piquets de cet oiseau. En chasse, il manœuvre déjà autour des 150 km/h, mais c'est lors de ses parades aériennes qu'il affole les compteurs. Le record absolu a été chronométré à 389 km/h. Pas étonnant qu'une espèce aussi puissante ait conquis la planète entière et soit présente sur les 5 continents.
Extrait du documentaire Sentinelle, le destin du faucon pèlerin, de Vincent Chablose. Et vous m'avez dit, Julien Perrault, directeur et rédacteur en chef de La Salamande, qui est notre invité, vous êtes arrivé avec ce DVD en me disant « il est vraiment bien ce documentaire ».
Oui, parce que d'abord le sujet est exceptionnel, c'est un oiseau juste, c'est incroyable que le faucon pèlerin existe, comme Pluton d'ailleurs, je crois que c'est leur point commun.
Oui, vous étiez fasciné, vous regardiez ça.
Et puis Vincent a fait un travail exceptionnel, il a travaillé 5 ans sur le faucon pèlerin pour nous offrir ce film Sentinelle, qui raconte non seulement la vie de cet oiseau qui est incroyable, mais en plus aussi toute l'histoire finalement autour des pesticides, le miracle qui a constitué à un moment donné l'interdiction du DDT, qui a permis à cet oiseau qui avait pratiquement complètement disparu de revenir à cause de ce pesticide, mais aussi la situation d'aujourd'hui où finalement, actuellement, ben voilà, on est empoisonné comme les abeilles et comme tous les autres animaux par un cocktail de pesticides variés, et où malgré tout c'est triste de constater qu'on n'agit pas de manière aussi forte et claire que dans les années 70, quand on a interdit le DDT. Ouais.
Alors vous consacrez votre journal La Salamandre à ce très bel oiseau qu'est le faucon pèlerin. Alors La Salamandre, hein, je rappelle, il y a la version pour les adultes, hein, un chasseur en pleine ville, ça voilà pour le titre de La Salamandre version adulte. Il y a La Salamandre pour les juniors, donc Salamandre junior, c'est les 8-12 ans, et là aussi c'est sur le faucon pèlerin. Et puis les tout petits, ils ont aussi leur salamandre, petite salamandre, mais alors là c'est l'écureuil.
Exactement.
Vous n'avez pas choisi de leur parler vous avez pas pensé que vous pourriez les émerveiller avec cet oiseau.
Ah si, mais on s'est dit 3 revues sur le même sujet, ça fait un peu beaucoup.
Alors, on l'a dit plusieurs fois, il va vraiment très vite, cet oiseau. Quel est le record de vitesse? Qu'est-ce qu'on a mesuré comme vitesse?
Alors, c'est la National Geographic Society qui a réussi à chronométrer le record actuel, donc de 389 km à l'heure. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris.
Oui.
C'est possible que le faucon pèlerin aille encore bien plus vite, on n'en sait rien. Il faut imaginer que ça représente quand même plus que la vitesse de pointe d'un TGV.
Oui.
Et que ça veut dire que le faucon pèlerin, en vitesse de pointe, il franchit 200 fois sa taille en 1 seconde. ce qui est à peu près ce qu'arrive à faire un avion de chasse, en pointe aussi.
Quelles adaptations a-t-il développées pour arriver à une telle prouesse? Parce que là, vraiment, on est dans des... C'est bluffant qu'il puisse faire...
Déjà, son aérodynamique, qui est absolument parfaite, c'est un obus quand il se met en position de piqué. Et puis ensuite, évidemment, tout son corps, je veux dire, les pattes sont rentrées dans les plumes pour pas ralentir. La forme des ailes est étudiée, les plumes sont renforcées. Et puis, il y a évidemment protection contre la vitesse. Il y a une espèce de petite bosse devant les narines pour que la vitesse ne lui coupe pas le souffle. Et il y a une vue qui est aussi probablement une des meilleures du monde animal. On estime que les faucons pèlerins voient entre 5 et 8 fois mieux que nous.
Comment on sait ça, par exemple? Comment on arrive à tester la vue d'un oiseau?
On leur fait lire des lettres à bonne distance. Parce qu'ils ont une chance folle, il faut qu'on fasse un, parce qu'ils ont deux, dans leur oeil, ils ont deux fovéas. La fovéa, c'est la zone avec laquelle, en fait, on fait la netteté. C'est la petite partie de la rétine avec laquelle on voit le mieux. Mm-hmm. Et eux, ils en ont deux. Donc, ils ont cette chance extraordinaire.
Fabienne David, vous êtes responsable de programme à la Ligue pour la protection des oiseaux. On a une idée, on a dit, hein, cet oiseau, depuis 40 ans, est en train de faire son retour. On a une idée du nombre d'oiseaux, de faucons pèlerins en France?
Oui, alors les dernières données remontent en fait à 2000-2002. C'est la dernière enquête qui a été menée sur les rapaces diurnes en France et qui fait état de 1200 couples à l'échelle du territoire national.
Ouais. On les trouve où, ces 1200 couples de faucons pèlerins?
Alors, ils sont principalement répartis sur un axe entre Metz et Biarritz, au sud de cet axe-là, c'est-à-dire sur des zones de falaises. Mais depuis maintenant une quinzaine d'années, on les rencontre en ville. Ouais. Il y a à peu près entre 30 et 40 couples qui sont identifiés en France sur des sites urbains, à commencer par Paris, avec ce couple qui est en face de la maison de la radio et qui a élu domicile sur une grande cheminée à deux pas de la Seine.
Ouais. D'ailleurs, Stéphanie Tessier est allée l'enregistrer elle-même. Hein, on entend ce cri. C'est évidemment pas celui qui niche à côté. Mais j'ai effectivement appris ça. Les écoles maternelles locales ont même surnommé ce couple Yaka et Yako. Donc voilà, ils sont adoptés par le quartier et on a des rapaces comme ça.
Exactement. Cette école maternelle, en fait, les enfants et les enseignants ont la chance de pouvoir observer ce couple depuis les classes de l'école, donc qui est située juste en dessous de cette grande cheminée. Et donc, il se régale à observer tout au long de l'année, ouais. Et en particulier pendant la période de reproduction, les adultes, donc Yaka et Yako, qui élèvent leur progéniture.
Alors, les enfants se régalent en les regardant, mais eux, les faucons pèlerins, de quoi se régalent-ils? De quoi se nourrissent-ils quand ils sont en ville, Julien Perrault?
La ville est très intéressante pour les faucons pèlerins, parce que c'est bourré de falaises, qu'on trouve pas forcément très poétique au niveau esthétique si on aime les espaces sauvages, mais en attendant un building, un immeuble, une cheminée comme celle que vous mentionniez, c'est parfait pour faire son nid. Et puis le deuxième intérêt évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de proies, pas forcément très variées, mais en particulier évidemment les pigeons qui pullulent dans la plupart de nos villes, qui sont exactement du bon calibre pour les faucons pèlerins.
Ah oui, donc ils se nourrissent des pigeons. Alors je vais peut-être choquer ceux qui aiment donner à manger aux pigeons, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, notamment à Paris, donc on pourrait imaginer s'en servir pour peut-être réguler un peu de façon écologique ces populations de pigeons.
Bon, ils ont quand même besoin de grands territoires, les faucons pèlerins, ils nichent pas côte à côte, donc je pense que par rapport aux, j'imagine, les centaines de milliers de pigeons qu'il doit y avoir dans Paris, je suis pas sûr que ce sera la solution. Par contre, il se peut que la présence du faucon pèlerin contribue à les disperser et à éviter les trop gros rassemblements.
Mmh. Ça, je sais pas si vous non seulement ça les disperse, voilà. Et puis ça provoque un stress sur la reproduction, voilà. Des pigeons. Ouais. Donc effectivement, ça contribue d'une certaine manière à réguler les populations de, ouais, pigeons abondantes en ville.
Et eux, Fabienne David, ils ne sont pas gênés par la ville, par la pollution sonore, visuelle et même les gaz d'échappement? Ils se trouvent bien en ville.
Ils se trouvent bien. Ils sont effectivement attirés par cette disponibilité alimentaire très, très riche. On a parlé de pigeons, mais bien évidemment, il y a d'autres espèces présentes en ville, d'autres espèces d'oiseaux, à commencer par les tourneaux. Alors, le bruit ne les dérange pas, et en revanche, ils profitent en fait de l'éclairage urbain pour étendre en fait leur spectre de chasse. Et donc, ah oui. C'est comme ça qu'on observe des oiseaux nocturnes dans le régime alimentaire des faucons pèlerins.
Alors, pour ceux qui aimeraient apprendre à les reconnaître à coup sûr, là, on a dit, il y a quand même 1200 couples qui se promènent ou qui volent au-dessus de la France, donc on peut peut-être en croiser. On a entendu leur cri à l'instant. Visuellement, comment on peut être sûr qu'on a affaire à un faucon pèlerin?
Vous le verrez en vol. Principalement des ailes pointues, une queue assez étroite, un vol très rapide qui alterne des courts planés avec des petits papillonnements d'ailes. Il bat 5 à 6 fois des ailes par seconde, il bat très vite des ailes. Puis la vitesse, je dirais, hein, essentiellement.
Oui, ouais. il a le plumage gris anthracite, le ventre blanc, et il fait penser à une grande hirondelle.
Bon, voilà. Fabienne David, je sais aussi que je crois que ça vous tient à cœur le gypaète barbu qui a été réintroduit sur les monts français. Un mot où on en est, c'est le 30e anniversaire, je crois, de la réintroduction de cet oiseau. Pas plus que ça.
L'année prochaine, ce sera le 30e anniversaire du début de ce magnifique programme de réintroduction, oui, en 2016.
On ne peut pas envisager de le réintroduire, hein, cet oiseau, l'autre, hein, le faucon pèlerin, parce que c'est une espèce pas menacée, c'est ça ?
C'est une espèce menacée, mais qui malgré tout recolonise spontanément le territoire, donc ne nécessite pas de programme de réintroduction.
Très bien, merci à vous Fabienne David et Julien Perrault. Je rappelle que l'on peut découvrir dans l'excellent journal La Salamandre votre dossier sur le faucon pèlerin. Il y a aussi la salamandre junior sur le faucon pèlerin et puis la salamandre plus petite pour les 4-7 ans sur l'écureuil. Merci à vous et merci François Forget pour nous avoir fait voyager jusqu'à Pluton.